Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Guy Bruy et Emmanuel Huysmans-Perrin.
Aujourd'hui, Jacqueline Lallouette, historienne connue pour ses travaux, principalement Une histoire de la libre pensée parue en 1997, La République anticléricale parue en 2001, Jour de fête plus récent paru en 2010 et Le dernier qui est une histoire de Jaurès, plus exactement de l'assassinat de Jaurès et de ce qui s'en est suivi. Mais ce n'est pas pour parler de l'œuvre de Jacqueline Lallouette que nous l'avons invitée, c'est pour rendre hommage à Maurice Agulon, grand ami de l'Union rationaliste, adhérent de l'Union rationaliste, militant dévoué, et qui avait reçu en 1988 le prix de l'Union rationaliste et avait été présenté brillamment à cette occasion par Maurice Cavingue. Jacqueline Lallouette, Maurice Agulon, vous le connaissez bien et depuis longtemps, puisque, si je ne me trompe, il a été votre directeur de thèse.
Oui, bonjour tout d'abord et merci pour cette invitation. Maurice Agulon a été en effet le directeur de mes deux thèses, ma thèse de troisième cycle, puis ma thèse d'État. Et cela remonte à un certain temps. J'ai commencé de travailler en thèse alors que lui-même venait d'arriver à Paris. Il est passé de l'université d'Aix à l'université de Paris 1 en 1972. Et c'est à la fin de l'année 1972 ou au début de 1973 que j'ai commencé de travailler en thèse sous sa direction. Donc c'est en effet une connaissance qui remonte à un nombre appréciable d'années et même de décennies, comme vous le voyez.
On distingue souvent par commodité pédagogique l'homme et l'œuvre, titre d'une collection ancienne et bien connue. Et cette commodité me semble devoir être refusée d'une manière générale, mais particulièrement pour un homme comme Maurice Agulon et comme d'autres militants qui ont appartenu à l'Union rationaliste. Car Maurice Agulon était, je crois, indissociablement un historien, un savant et un citoyen.
Oui, en effet, avec Maurice Agulon, il est impossible quasiment de distinguer l'historien, l'homme dont j'aurais peut-être pu parler en tant que directeur de thèse, et puis le citoyen. Donc l'historien, l'homme, le citoyen. Lorsque Maurice Agulon a reçu le prix de l'Union rationaliste que vous avez mentionné tout à l'heure, c'était donc en 1988, il a répondu à Maurice Cavingue qui lui avait remis le prix. Il lui avait répondu ceci: « Nous appartenons l'un et l'autre à l'espèce des rationalistes qui sortent parfois des bibliothèques pour se mêler du mouvement social. » Et en effet, sans être un militant de premier plan, au sens médiatique du terme du moins, Maurice Agulon, toute sa vie, s'est intéressé à la vie de la cité, à la politique nationale et aux relations internationales. Bon, ce n'est un mystère pour personne qu'il s'est engagé très tôt au Parti communiste. Il a adhéré au parti en 1946, alors qu'il venait d'arriver à Paris, à l'ENS, au sortir du lycée du Parc de Lyon, où il avait fait son hippocagne et sa cagne. Je précise au passage que pendant ces années d'hippocagne et de cagne, il avait donc 18 et 19 ans, il avait des sympathies pour la résistance, mais n'a jamais fait de résistance, sauf un mini-épisode qu'il raconte avec humour dans sa participation aux Égaux Histoire, publiée par Pierre Nora. Sa participation s'appelle « Vue des coulisses ». Bon, les gens intéressés iront lire ce texte. Et il s'en est par la suite un petit peu voulu. Il dit lui-même, justement, dans Vue des coulisses, qu'il était, après la libération, travaillé par un vague remords de ne pas avoir fait de résistance. Et il explique, mais il était très jeune, il avait 18 ans, vous me direz qu'il y avait d'autres gens aussi jeunes qui faisaient de la résistance. Et c'est en partie pour cela qu'il explique son adhésion, en partie seulement, hein, son adhésion au parti communiste, ayant eu, dit-il, l'envie de se rattraper en rejoignant les politiques se présentant à grand bruit comme le prolongement de la résistance. Bon, il explique par ailleurs son adhésion, en partie par le besoin de se trouver une famille de substitution. Il n'avait pas toujours été heureux dans sa propre famille. Ses parents étaient des puritains. Il dit même que son père avait quelque chose de glacé et de glacial. Mais cependant, il rejoignait là une tradition familiale de gauche. Et puis, il explique aussi son adhésion par le climat de la libération qui était éminemment propice, écrit-il, à l'engagement politique. Et il pose la question: pourquoi le PCF plutôt que la SFIO? Et sa réponse est la suivante: elle porte sur l'intensité de la propagande communiste après la libération. Et il dit: la malheureuse SFIO, précisément parce qu'elle était dirigée par des démocrates honnêtes, laïques, raisonnables, a été surclassée par la démesure du parti rival. Telle est la triste vérité à laquelle il faut penser d'abord. Elle est vraiment essentielle à l'ère du temps. Alors, il pose à ce moment-là la question, mais l'esprit critique là-dedans. Et il dit: oui, mais j'avais 20 ans. Et à 20 ans, ce n'est pas le moment de la vie où on a l'esprit critique le plus aiguisé. Il a été un militant très zélé au Parti communiste. C'est lui-même qui emploie cette expression. J'ai été un militant zélé et j'y ai battu, donc au Parti communiste, j'y ai battu des records de discipline, de dévouement et de soucis obsessionnels, y compris donc en sacrifiant ma vie privée. Puis, en partie sous l'effet de ses travaux historiques, mais aussi sous l'effet de sa réflexion d'homme et de citoyen, il a fait un lent retour vers la démocratie libérale. Donc j'ai dit en partie à cause de ses travaux historiques, en effet parce qu'il avait pu vérifier que certaines grandes hypothèses marxistes n'étaient pas vérifiées, notamment ce qui a trait à la paupérisation croissante de la classe ouvrière. Alors, il est sorti du parti, j'allais dire seulement, mais ses propos excluent que l'on puisse dire seulement. Donc, il est sorti du parti en 1960, donc 4 ans après les affaires de Hongrie, 4 ans après le 20e congrès. Et j'aime beaucoup la manière extrêmement honnête dont il explique sa sortie, qu'on ne dira pas tardive, vous verrez pourquoi, du Parti communiste en 1960. Il explique ceci dans la conclusion d'un ouvrage qu'il a rédigé, qui a été publié en 2005, qui est intitulé « Histoire et politique à gauche ». Et il écrit « Tout être de bonne volonté et capable de réflexion va forcément vers le bien ». Mais il y va au rythme et avec les traverses que déterminent les circonstances et sa situation et sa psychologie. C'est d'ailleurs pourquoi, sorti entre guillemets en 1960, je ne me considère pas comme moins estimable que ceux qui ont quitté en 1956 et je ne me tiens pas non plus pour meilleur que ceux qui ont attendu 1982 et au-delà. J'ai seulement essayé d'évoquer de mon mieux un coin d'histoire compliqué et qui méritait de l'être en raison même de cette complexité. Et dans un autre passage de ce livre, il explique, il donne une autre explication complémentaire de sa sortie de 1960. Il vivait à ce moment-là en province et il dit... que les militants, il était à Marseille, et il dit que les militants du quartier marseillais où il vivait étaient des militants assez simples, qui ne voyaient pas si loin que la Hongrie, pas si loin que le 20e congrès et qui était essentiellement sensible à l'atmosphère d'anticommunisme qui se donnait à leur libre cours. Il explique que l'humanité, le siège de l'humanité avait fait l'objet d'agressions, qu'il y avait des menaces diverses qui y parvenaient, et que c'est à cela qu'étaient sensibles les militants communistes de son quartier, donc ceux qu'il connaissait. Ces militants, dit-il, avaient besoin de resserrer les rangs, de faire bloc contre ce climat d'agression, et il pose la question, était-ce à ce moment-là là que je pouvais les quitter? Non, il ne le pouvait pas et il attendra 4 ans. Donc il n'y a rien que de très honorable dans cette sortie différée en 1960. Il faut d'ailleurs dire que pour autant, cette sortie du Parti communiste ne s'est pas accompagné d'un reniement du parcours qui avait été le sien de 1946 à 1960. Il dit qu'il regrette d'avoir pensé, écrit et même accompli des sottises. Il explique qu'il continue d'avoir beaucoup de respect pour Karl Marx en tant qu'homme et en tant que théoricien, ne serait-ce d'ailleurs que par respect pour la mémoire d'Ernest Labrousse qui était son maître, et qu'il continue de tenir le manifeste communiste pour un beau et grand texte.
Oui, là, vous venez d'insister à travers ce parcours sur l'aspect, je dirais, moral du personnage, car la morale était très importante pour lui. Et il y a quelques années, à un colloque, il avait fait une intervention sur la morale. Et un jour, il m'avait dit, avec son humour très singulier, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, il avait dit que si Lionel Jospin avait lu son article, il n'aurait pas été battu par Jean-Marie Le Pen.
Oui.
Alors, il y a peut-être autre chose sur quoi il faudrait insister aussi, c'est que sa rigueur de pensée et de chercheur l'a conduit à ouvrir des pistes, et notamment son travail sur la vie associative et sur les mentalités, ce qui était quelque chose de neuf, je crois.
Alors, je vais revenir un petit peu sur la morale, qui était un sujet qui lui tenait effectivement très fortement à cœur. Et il expliquait comment il fallait différencier la morale privée de la morale sociale. Autant il était d'un libéralisme absolu pour tout ce qui relevait de la morale privée, autant il estimait que pour la morale sociale, notamment sur les affaires de sécurité et de délinquance, et il renvoyait là-dessus d'ailleurs à la Déclaration des droits de l'homme, il fallait prêter une grande attention. Et il y a un passage de ce livre « Histoire et politique à gauche » où il explique qu'une dame a parfaitement le droit de traverser la rue sans se faire arracher son sac à main, et que ça relève aussi des droits de l'homme, sécurité étant ici l'équivalent de sûreté. Alors, quant à son travail et à la rigueur de son travail, cette rigueur, bien sûr, elle s'exprime par toutes sortes de points, l'exhaustivité du savoir qu'il défend, le refus de tout dogmatisme et la volonté d'équité dans ses analyses, l'attention prêtée au langage et à la justesse des mots et à l'évolution des mots qu'il faut bien suivre pour être sûr que l'on comprend bien les textes. Il faut l'exhaustivité du savoir. L'exhaustivité du savoir, ça implique effectivement de partir vers toutes sortes de pistes et de faire preuve d'une immense curiosité et souvent même d'une grande originalité par là même. Dans Vue des coulisses, il explique comment il a travaillé sur des paysans arriérés devenus ultra-démocrates, sur des pénitents noirs devenus francs-maçons, sur des communistes devenus CRS. Et cette originalité, elle s'est aussi portée vers des champs qui ont été des champs conceptuels, en même temps, on va dire, qui ont été sans doute deux de ses grands apports, mais pas les seuls apports, ces deux grands apports pour la recherche historique, à savoir tout ce qui a trait à la sociabilité. Et il explique bien, aussi bien dans Histoire et politique à gauche que dans Vue des coulisses, que dans d'autres écrits, notamment dans les cahiers rationalistes ou lors d'émissions de radio, car vous-même, vous l'avez interviewé à plusieurs reprises. Il explique qu'il a emprunté le concept de sociabilité qui était totalement méconnu, et il l'a emprunté à un archéologue et folkloriste provençal, Fernand Benoît, mais que son apport donc a été été d'avoir l'idée de saisir cette notion de sociabilité pour l'introduire dans le champ du politique et du socio-culturel et de lier toutes ces notions pour voir comment la sociabilité avait pu servir de cheminement, en quelque sorte, pour la diffusion de l'idée républicaine. Alors, sa deuxième grande curiosité, qui a été plus tardive, a été tout ce qui relevait de la symbolique républicaine, et comme il l'explique là encore avec beaucoup d'humour dans ses écrits, l'étude des Mariannes avait commencé par être, dit-il, une récréation pendant ses étés provençaux, où il regardait les Mariannes sur les fontaines, et puis un jour il a vu qu'il y avait des inscriptions sur un buste de Marianne, il a emprunté une échelle et il voit que le nom du fabricant, c'est les forges de Touzet à Vaucouleurs, alors qu'il s'attendait, dit-il, à un fabricant marseillais ou toulonnais. Il a compris qu'il y avait un champ national qui s'ouvrait et immédiatement il a compris qu'il pouvait faire le lien entre les Mariannes provençales et les grandes statues de la République de Paris ou de Lyon, et s'en est suivie toute la grande enquête sur la symbolique républicaine et sur l'éducation civique des citoyens menée par la République par l'intermédiaire de la symbolique et des images.
Alors, il est très dommage que nous n'ayons pas le temps d'aller plus loin. Je veux simplement dire que vous auriez pu parler longuement de l'attachement de Maurice Agudon à la laïcité. Je crois que la formule « la laïcité, le ciment de la République et de lui », m'a-t-on dit. Et d'autre part, l'Europe, car c'était un fervent européen.
C'était un très fervent européen.
Ce sera pour une prochaine émission. Et donc, Jacqueline Lalouette, nous vous remercions pour ce vibrant hommage à Maurice Agudon, qui le méritait bien.
Je rappelle que, en rapport à la plus brûlante actualité concernant les intermittents du spectacle, le numéro 163-164 de Raison Présente consacre un article très intéressant sur les intermittences, sur les intermittents et l'intermittence, un marché du travail d'exception par Pierre-Michel Minger.
Un article de 2007, mais qui regarde toute son actualité.
Je remercie Dany Journeau et Stéphane Desmonts qui ont rendu possible cette émission. Je remercie Guy Bruy et Jacqueline Lalouette, et je vous dis au mois prochain avec Monique Chemillé-Gendreau.